Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fleurs d'avocat. Je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Aujourd'hui, ce n'est pas un avocat bien dans sa robe que j'interviewe, sinon comme tous les 5 épisodes, un avocat reconverti. Et c'est Fabien Naoum qui s'est prêté au jeu. Fabien a exercé pendant un peu plus de 3 ans au barreau de Paris en droit des affaires et plus particulièrement en conseil en droit des sociétés avant de devenir brasseur de bière. Il a notamment fondé la Société Parisienne de Bière qui est devenue la brasserie SPB, H-E-S-P-E-B-A-Y, que vous pouvez trouver dans les Monoprix notamment. Et il nous raconte tout ce parcours dans l'interview avec moult détails. C'est maître Éric Morin qui m'a soufflé le nom de Fabien Naoum sur Twitter et je l'en remercie. Celles et ceux d'entre vous qui n'ont pas encore écouté l'interview d'Éric Morin d'ailleurs, je vous encourage vivement à le faire parce que il est très chouette et j'ai plein de retours très positifs dessus. Donc voilà, merci à tous. Et surtout, merci à Eric pour cette interview et cette recommandation. Donc, avant de lancer l'épisode, je voudrais aussi en profiter pour vous parler de la nouvelle formation que j'ai créée qui s'appelle Confiance en moi et qui est née du fait que mes premiers clients dans la première formation Fleurs d'avocat qui s'appelle Bien dans ma robe sont toutes venues parce que c'est beaucoup des femmes, en faisant état à un moment ou à un autre de problèmes de confiance en elles qui les inhibent dans la prise de certaines initiatives, que ce soit dans leur cabinet, dans leur gestion de carrière, à plein de sujets. Et donc j'ai fini par dire un jour, bon, si c'est comme ça, je vais finir par vous faire une formation sur la confiance en soi. Et face à la réaction assez unanime et enthousiaste sur le fait que ça les brancherait tout à fait, eh bien, j'ai décidé de le faire. Et pour ça, j'ai pris attache avec Lamia Mzebla. Et Lamia Mzebla a été avocate pendant plus de 10 ans. Elle faisait du contentieux des affaires avant de se reconvertir et de devenir coach. Et il se trouve que ma dernière collaboration s'est faite dans le même cabinet que la dernière collaboration de Lamia. C'est là que nous nous sommes rencontrés, nos bureaux étaient proches l'un de l'autre et nous avons noué des liens que nous avons fait perdurer par la suite. Et j'ai voulu travailler avec Lamia sur cette formation parce que je trouve qu'elle a un don, un talent pour révéler les gens à ce qui est beau en eux et qu'elle valorise énormément les personnes et qu'elle leur donne confiance. Et donc je me suis dit que c'était vraiment la personne avec qui j'avais envie de travailler pour cette formation. Et donc on a concocté un petit programme sur une formation qui sera en 5 ateliers. Un premier atelier sur l'estime de soi, un deuxième atelier sur les compétences, la confiance en ses compétences, un troisième atelier sur le charisme et le leadership, et donc comment inspirer confiance autour de soi. Un quatrième atelier sur la confiance en sa voix, V-O-I-X, où ce sera surtout un travail sur la voix et la posture pour transmettre la confiance par le corps. Et enfin, un cinquième atelier sur le fait de se faire confiance, avec un travail sur les émotions et sur l'intuition notamment. Et voilà, je suis ravie de vous en parler aujourd'hui. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire à la première session qui aura lieu à partir de fin janvier. Et j'ai le grand plaisir pour cette première session d'être hébergée par le cabinet Queen Emmanuel grâce au soutien de Camille Aéry qui parle beaucoup de confiance en soi dans ses conférences, qui en a parlé dans son épisode, dans son interview. Que je vous invite à aller écouter aussi par ailleurs. Et donc c'est assez naturellement que je me suis adressée à lui pour savoir s'il accepterait d'héberger ce module. Et sur les réseaux sociaux, je fais un petit concours de Noël et je vous invite à participer. Il suffit de taguer une personne avec qui vous aimeriez faire cette formation ou qui, selon vous, pourrait bénéficier de cette formation. Et je ferai un petit tirage au sort et une des personnes gagnera donc une place pour la session de janvier de cette formation Confiance en moi. Donc je vous invite à aller voir sur le site internet, vous aurez une plus ample présentation de la formation Et vous aurez aussi un lien pour découvrir et rencontrer Lamia avec son cabinet de coaching à Cordon. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'en ai fini pour les annonces et je vous laisse avec donc Fabien et moi pour cette discussion sur une reconversion professionnelle. Bonne écoute et à la semaine prochaine. Bonjour Fabien.
Bonjour.
Naoum.
Oui.
Merci d'être mon invité sur Fleur d'Avocat.
Merci de m'accueillir.
Alors Fabien, raconte-moi comment et pourquoi tu es devenu avocat.
Alors c'est une bonne question. Donc j'ai commencé mes études par une année plus ou moins sabbatique parce que j'avais commencé à faire de l'éco-gestion en faculté à Assas, ça m'avait pas plu du tout. Donc j'avais avorté ça et je m'étais beaucoup posé la question de ce que je voulais devenir plus tard. Je pense comme beaucoup de gens de ma génération. J'ai commencé par une école de commerce parce que j'avais... Pendant cette année sabbatique, j'avais déjà entrepris, créé quelques projets.
Qu'est-ce que tu avais créé ?
J'avais créé un site internet qui référençait des soirées parisiennes.
Ok. Voilà.
C'était un moyen de gagner un peu d'argent, mais le milieu ne m'avait pas passionné.
Le milieu de la nuit ?
Le milieu de la nuit ne m'avait pas passionné. C'est pas... Et donc j'avais fait une école de commerce par la suite, ne sachant pas trop ce que je voulais faire. Ça a été très intéressant, mais à un moment donné, il m'a manqué j'avais besoin, dans le cadre de mes études, de faire travailler mon cerveau, d'avoir une formation qui soit peut-être, je dirais, plus littéraire ou plus intellectuelle, si je puis dire.
Sympa pour les écoles de commerce.
Sympa pour les écoles de commerce.
Cela dit, c'est un truc qui est assez.
Dans une école de commerce, on apprend énormément de choses, mais c'est vrai que on n'apprend pas forcément à écrire ou on apprend forcément à on apprend à réfléchir sur effectivement comment gagner de l'argent, mais voilà, je voulais réfléchir sur autre chose et donc il m'a été donné l'opportunité de poursuivre ma formation en droit gestion.
Donc t'as fait 3 ans en école de commerce quand même.
J'ai fait 2 ans en école de commerce. J'ai fait une sorte de je crois, 2 ans, c'est le DEUG, je sais plus comment ça s'appelle. Et j'ai poursuivi à l'université Paris Dauphine où j'ai fait du droit gestion. C'est en fait du droit des matières de droit des affaires et des matières de gestion. Donc j'ai découvert le droit à travers des matières très concrètes qui étaient les procédures collectives, le droit des contrats, voilà. Donc des matières de droit des affaires très appliquées. Mais je n'avais pas du tout le background juridique. Et dans cette formation là, on était mélangé entre personnes qui avaient un profil très, je dirais, non pas école de commerce, mais gestion, et des élèves qui avaient un profil très droit, donc qui sortaient de l'université de droit. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert le droit, et c'est comme ça que, je dirais, j'ai été amené progressivement vers la profession d'avocat.
Et ça a satisfait tes besoins de plus de réflexion, plus littéraire
Alors, complètement, mais... bon, parce que le niveau à Dauphine était... quand même assez élevé, mais il me manquait quand même des fondamentaux de droit, c'est-à-dire que j'arrivais à comprendre un peu comment fonctionnait le droit, mais comme c'était une matière très appliquée, le droit des procédures collectives, c'était un état d'esprit très singulier, et donc j'avais l'impression qu'il me manquait cette réflexion fondamentale de droit. Donc ça a satisfait une partie de mes attentes, mais voilà, j'étais encore en recherche de quelque chose qui puisse structurer l'ensemble de ces informations que j'avais intégrées. J'avançais comme ça à la fin de cette maîtrise vers un master 2, puisque c'était naturellement, je dirais, qu'à la fin de la maîtrise, on fasse un master 2.
T'avais un peu plus une idée de ce que tu allais faire après ?
J'avais aucune idée de ce que j'allais faire.
Ouais, donc Master 2, toujours aucune idée.
Alors Master 2, aucune idée, mais ce que je savais, c'est que je voulais sortir de l'environnement affaires. Et je suis allé donc faire un Master 2 de droit des médias, c'était le nom du Master 2 à Toulouse, qui regroupait en fait des matières de propriété intellectuelle, que j'avais déjà un peu étudiées à l'université de Dauphine, et des matières de droit public que sont le, enfin, le, ils appellent le droit du cinéma, le droit de l'audiovisuel. Donc, je découvrais un autre pan du droit qui était donc ce droit public avec une autre façon de penser, mais toujours très spécialisé. Et je m'étais, je me suis orienté là-bas parce que ma réflexion était, je veux, enfin, je m'intéressais aux industries culturelles, comme, mais sous l'angle industriel et puis la dimension aussi, je dirais, culturelle, du cinéma, ces choses qui m'attiraient. Et donc, voilà, je me suis dit que de faire du droit des médias en M2, c'était une façon de me rapprocher de ce qui m'intéressait. Mais je me suis rendu compte que le droit, enfin, dans un domaine que l'on apprécie, n'est pas forcément aussi appréciable que la matière en elle-même. Oui. Et le droit public de l'audiovisuel, c'est très technique, c'est très intéressant intellectuellement, mais je m'y retrouvais pas, quoi. Donc, j'ai pas donc, réussi vraiment.
Ce Master 2, c'était pas non plus ça.
J'ai découvert des choses intellectuellement, ça m'a appris beaucoup de choses, mais je me suis pas vu pratiquer dans ces domaines-là. Et en rentrant à Paris, j'ai tout de suite, j'ai commencé mes stages en cabinet d'avocat.
Ok. Parce que tu t'expliques que tu savais toujours pas vraiment ce que tu voulais faire. Donc, pourquoi est-ce que tu as fait des stages en cabinet d'avocat?
Alors, les cabinets d'avocats, ça me paraissait être l'étape naturelle, je dirais, après cette formation juridique. Et puis, il s'agissait pour moi de voir si la pratique du droit était quelque chose qui pourrait m'intéresser. Donc, c'était vraiment très exploratoire comme expérience.
Ouais. Et comment ça s'est passé?
Ça s'est très bien passé. J'étais dans un cabinet parisien, où j'étais dans le département propriété intellectuelle. Et dans ce cabinet, j'ai découvert, c'est une expérience de 6 mois, c'était un cabinet où on travaillait beaucoup, m'est arrivé de rentrer à 5h du matin. mais ça me plaisait beaucoup, j'aimais beaucoup cette l'énergie qu'il y avait, la recherche de l'efficacité, de l'excellence, enfin, c'est quelque chose qui m'a beaucoup séduit. Et j'ai découvert le contentieux des affaires. Et c'est ça qui m'a vraiment beaucoup plu. Alors, au contact d'un avocat de ce cabinet qui a été un super professeur, en tout cas qui m'a donné envie de poursuivre dans la voie du contentieux des affaires. Et le contentieux des affaires, pour moi, la seule possibilité, c'était de devenir avocat. C'était oui. La voie la plus naturelle pour y arriver. Et donc voilà comment, petit à petit, en fait, j'ai découvert un plaisir dans le métier d'avocat, à savoir le contentieux des affaires.
Donc tu décides de passer le CRFPA.
Donc je décide de passer le CRFPA la même année, et je rentre à l'enfin
ouais.
Et donc
alors ça se passe bien.
Alors non, ça se passe bien. Alors et c'est pendant en fait cette formation, donc j'ai fait j'ai eu la chance de pouvoir faire une formation petite formation privée pour passer le CRFPA qui m'a permis de découvrir toutes les matières fondamentales que je ne connaissais pas. Donc en fait en 2 mois, j'ai découvert le droit des obligations. J'ai découvert en fait les fondements des droits, des spécialités que j'avais découvert. Et donc c'est comme si tout le puzzle en fait se mettait en place. Et j'ai adoré le droit des obligations. Voilà. Et donc moi je suis bien passé donc le CRFPA. Mais ce qui est curieux dans ma formation, c'est que j'ai découvert les fondements. Alors pas tous bien évidemment, mais les fondements. J'ai découvert le droit pénal aussi pendant ma formation privée. Voilà, donc j'ai fait les choses un peu à l'envers, je pense.
C'est chouette aussi de montrer qu'on peut devenir avocat sans nécessairement passer par L1 de droit, enfin voilà, qu'il y a plusieurs chemins pour devenir avocat. Et comment se passe l'EFB du coup, PPI, stage final?
Alors l'EFB, je fais un stage chez un pénaliste. 2-3 mois, et puis je décide de partir à l'étranger. C'était la seule opportunité que j'avais de partir à l'étranger dans toute ma formation, donc je pars à l'étranger. Et là, je me disais, bon, dans un premier temps, j'ai cherché, je me suis dit, bon, j'aimerais, pour faire les droits des affaires, le lieu, la ville qui me semblait être la plus emblématique, c'était la ville de New York. Et donc, j'ai préparé littéralement 100 candidatures. Que j'ai envoyé à 100 cabinets d'avocats, à New-Yorkais, en vain. Et je lisais des articles simultanément dans la presse américaine qui expliquaient que c'était la crise, que les avocats ne trouvaient même enfin pas de job à New York et que les avocats préféraient être stagiaires de cabinet new-yorkais parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de job. Donc bon, je me suis fait cette raison et je me suis dit que je n'y arriverais pas, et effectivement je n'ai eu que des refus. Et donc je me suis dit, bon, si je ne vais pas à New York, je vais choisir l'expérience la plus loufoque qui puisse exister. Et donc j'ai choisi de partir en Mongolie. Donc je suis allé sur le site de l'American Bar Association, hein, et il y avait une rubrique stage étranger. Et c'est là que j'ai vu des annonces de cabinets d'affaires en Mongolie. Donc je m'imaginais pas que, enfin bon, bêtement, mais qu'on puisse trouver ce genre d'annonce sur ce site. Et puis j'ai regardé un peu les meilleurs cabinets d'avocats d'affaires de Ulaanbaatar. Et puis j'ai candidaté dans celui qui te semblait être le plus intéressant. Voilà.
Et
donc j'ai été accepté.
Ouais. Moins de concurrence.
Donc. Il y a moins de concurrence.
Et comment ça s'est passé?
Alors ça a été une expérience, je dirais, fondamentale.
Ouais.
Et fondatrice. Mais ça a été une expérience assez dure. Bon, les côtés positifs, c'est que je me suis retrouvé donc catapulté dans un petit cabinet de 3-4 personnes, où donc c'était un cabinet international sino-américain, donc il y avait des bureaux aux États-Unis et en Chine, et qui avait ouvert en fait le premier bureau, c'était le premier cabinet étranger à s'implanter à Ulaanbaatar dans les années 90. La direction était en Chine. Mais il y avait un référent mongol, donc un associé référent mongol, qui est parti une semaine après mon arrivée. Et donc je me suis retrouvé en fait avec une équipe de collaborateurs, mais assez juniors, et je suis devenu en quelque sorte l'espèce de référent du cabinet, en Mongolie. c'était curieux, parce que probablement je parlais mieux anglais que des avocats sur place. Et que j'avais, semble-t-il, une plus grosse expérience. Moi, j'avais 6 mois d'expérience de cabinet d'avocat. Mais voilà. Donc, c'était assez curieux.
Mais du coup, tu faisais quoi?
Eh ben, en fait, on faisait un peu de contrat pour les investisseurs étrangers, qui étaient quasiment tous anglais, australiens. Donc, on travaillait quasiment qu'en anglais. Et le droit mongol des affaires, alors, c'est un droit qui est inspiré de, c'est un droit de inspiré de droit allemand, donc de civil law, donc c'est un droit écrit. Donc je m'y retrouvais parce qu'on avait des codes, donc c'était pas totalement étranger. Et on avait des traductions de codes. Bon, après, donc le droit des affaires était régi par très peu de textes au final. C'était pas le gros code civil qu'on a chez nous. Et donc j'ai découvert en fait sur le terrain le droit mongol, et je me suis rendu compte en fait que il y avait beaucoup de coutumes, mais qu'en fait il y avait un droit qui était très inexistant face aux problématiques très complexes d'investisseurs étrangers. Donc ça a été beaucoup de création de suppositions sur la base d'un droit qui existe mais qui est très flou sur les problématiques d'investissement.
Et t'as dit que ça avait été une expérience fondatrice et fondatrice.
Ouais, sur le plan personnel, ça a été assez dur parce que j'étais un peu tout seul en Mongolie. Je suis arrivé en été, pendant le Nadam, qui est la fête nationale, et j'ai passé tout l'hiver en Mongolie. Et l'hiver en Mongolie, à Ulaanbaatar, c'est une expérience un peu singulière. Il fait moins 40 degrés.
Oh mon Dieu.
Et si on n'a pas une bande de copains, bon, on se retrouve un peu seul, quoi. Donc, je côtoyais un peu la communauté française là-bas, mais bon, sans pas non plus énormément, quoi. Donc c'est juste que ça a été, je me suis retrouvé en fait finalement assez seul parce que et dans le cabinet d'avocat et même au quotidien, voilà. Bon, c'est pour ça que c'était assez dur, mais je l'ai amené, enfin jusqu'au bout, et j'ai terminé mon stage quand même. J'ai réussi à négocier à partir 2 semaines en Chine pour terminer mon stage là-bas. Mais fondatrice parce que je pense que je me suis pris une grosse claque, quoi.
Ouais. Et qu'est-ce qu'il en est ressorti de cette solitude, de cette claque, de cet hiver à Ulaanbaatar?
Alors, il en est ressorti que j'étais extrêmement content de rentrer à Paris. Et j'avais déjà trouvé mon stage donc pour la suite. Donc, je pense que ça a confirmé chez moi la volonté d'être assez autonome et de pouvoir prendre des initiatives dans mon quotidien, dans mon travail, et que j'aime beaucoup cette autonomie, cette autonomie quasiment entrepreneuriale, parce que ça a été un peu le cas à Ulaanbaatar. Et je pense que ça m'a aussi beaucoup endurci dans... Ça m'a fait comprendre que ça m'a rapproché de cette idée que j'aime prendre des risques, et que quelle que soit en fait la situation dans laquelle je me retrouve, j'aurai l'énergie en moi pour amener à bien en fait mon projet.
Ça t'a donné confiance.
Oui, c'est ça. Ça m'a donné confiance dans ma capacité à être à faire ce que j'ai envie de faire dans les situations les plus difficiles.
Voilà. Et donc tu rentres à Paris, dernier stage.
Dernier stage.
Ouais. Contentieux des affaires.
Contentieux des affaires. Dans un cabinet, un super cabinet où j'ai appris, qui m'a super bien formé, à la dure, hein, avec, on se couche tard, c'est très très concurrentiel et tout ça, mais j'en suis sorti avec une formation vraiment super, quoi. Et c'est ce stage-là qui m'a permis de trouver, donc, j'ai pas été pris en tant que collaborateur dans ce cabinet-là, mais j'ai rejoint un associé de ce cabinet qui est allé dans un autre cabinet, quoi.
Ouais. Donc très formateur, et le métier d'avocat, là, tu te projetais à ce stade-là
Oui, alors j'étais quand même allé un soir, je m'étais réveillé une nuit avec des palpitations au cœur, j'étais allé à l'hôpital, enfin...
Ah oui, quand même.
Mais non, mais parce que, au ventre, j'avais une douleur au ventre incroyable, un soir, et bon, ils ont rien trouvé, donc je mets ça sous le compte du stress, parce que ça m'est jamais arrivé de ma vie. Donc ça a été dur, hein, très dur, très stressant. C'est pas un stress qui me fait perdre mes moyens, mais voilà, en tout cas, j'ai quand même allé un soir à l'hôpital.
Et à ce moment-là, enfin, parce que c'est quand même une réaction extrême au stress,
ouais.
qu'est-ce que tu te dis ?
Alors, quand on est dans cette course, en tout cas dans ce stage de fin d'études, on a quand même qu'une seule chose en tête, c'est
la collab.
Trouver un job, ouais, trouver le job qui suit. Donc, je dirais que les problématiques de ventre, ça passe après. On se dit d'abord, on saute l'obstacle et ensuite on voit comment ça se passe. Donc, je me suis pas dit c'est sûr qu'effectivement ma réflexion c'était de dire bon, est-ce que j'ai envie de ça, mais je répondrai à cette question plus tard.
Ouais.
D'abord, on passe l'obstacle.
Ça me fait penser à Thibault Labbé. C'est ma deuxième interview d'une reconversion professionnelle. Et lui aussi, il avait un mal-être physique, quoi. C'est-à-dire que, alors lui, ça n'a pas été ponctuel, c'était plus diffus. Mais si je me souviens bien, des soucis de sommeil, enfin des trucs quand même où physiquement, il sentait que, bref.
Je crois que ça s'appelle la symptomatisation. Et au final, c'est un truc qui est, enfin, moi, je voyais comme quelque chose de plutôt positif parce que c'est une façon d'exprimer d'une manière ou d'une autre quelque chose. Donc, si la parole, enfin, il n'y a pas d'expression, parole, le corps s'exprime. Donc, c'est une façon comme une autre de dire quelque chose. Et donc, au final, c'est bien que le corps s'exprime comme ça.
Ah oui.
Faut pas que ce soit trop violent non plus, mais voilà.
Non, c'est plutôt cool. Ce qui est encore mieux, c'est quand on écoute, mais mais c'est plutôt cool. Heureusement que le corps envoie des signaux. Et donc, tu rejoins cet autre associé,
ouais,
dans un autre cabinet.
Oui.
Et commence, du coup, ta collab.
Ma collaboration.
Ouais. C'est chez nous, ça, que ça vibre ?
Ouais. C'est celui-ci, là. C'est lui. Pardon.
Pas de problème.
Ah, ouais.
Tu veux répondre ou...
Non, pas du tout. Okay. Donc, commence cette collaboration dans un super cabinet avec des gens avec qui ça matche vraiment très bien. Des gens avec qui je parle de cinéma dans l'entretien d'embauche, donc un super feeling et voilà. Alors, pas en contentieux des affaires pures, mais je suis à cheval entre du droit des sociétés en conseil et un peu de support sur du contentieux de droit des sociétés.
Et donc ça a été parce que t'as eu une opportunité avec cette personne avec qui t'as eu un bon feeling et donc préféré aller bosser avec elle, ou ça a été parce que t'as pas trouvé en contentieux ou...
Alors, j'avais travaillé avec cet associé-là pendant mon stage et on avait travaillé sur des matières de droit boursier, de communication financière. Et le contact s'était très bien passé. On avait passé. Enfin, donc
ça a été un choix de personne.
Oui, à ce moment-là, je me suis dit chouette. J'ai travaillé sur des dossiers intéressants. J'ai l'opportunité d'entrer dans un cabinet qui a bonne réputation, dans lequel il y a une bonne ambiance. Enfin, et je peux faire ce que je voulais, ce que j'ai fait historiquement, et faire un peu de conseil. Ça, j'étais assez ouvert encore à cette époque-là, donc ça m'allait très bien. J'étais très content. J'ai pas plus candidaté que ça, parce qu'en fait, l'opportunité s'est présentée assez vite, et ça m'a plu, donc voilà.
Cool. Et donc cette collaboration se passe bien.
Donc, ça se passe très bien, ouais, ça se passe très bien. J'ai fait du droit des sociétés,
ouais.
Un peu de contentieux.
Bah alors, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, dans ton regard, mon parcours, j'ai en germe en moi... je dirais les graines de l'entrepreneuriat, parce que j'ai un peu toujours fait ça. Un truc qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu ma collaboration, donc quand j'ai signé mon contrat, il y a eu une espèce de relâchement. C'est comme si j'avais mis un terme à, je crois, 7 ou 8 ans de formation. C'est-à-dire que j'avais réussi, en quelque sorte.
Ouais.
L'objectif que je m'étais fixé, j'avais réussi. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me demander, bon, ok, maintenant que ça c'est fait, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie, Fabien? C'est quoi tes passions? Et j'ai un peu de mal à répondre à cette question. Je sais pas ce que j'aime. En fait, je me suis jamais autorisé, je me suis jamais laissé poser la question de quelles étaient mes passions. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'écouter un peu. Et que j'ai découvert des passions assez curieuses, assez saugrenues, mais voilà.
Ouais.
Et
t'as ouvert la porte à l'introspection et ça a été un chemin sans retour.
Alors, l'introspection, ça fait bien longtemps que je travaille, mais sinon, c'est plus l'idée de se dire bon bah ok, maintenant que la partie sécurité, ce que je devais faire pour satisfaire, je dirais aux nécessités transgénérationnelles et familiales. Maintenant que ça s'est fait, maintenant que j'ai fait le job, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'aime? Donc c'est venu comme ça, assez naturellement.
Et ces centres d'intérêt saugrenus?
Les tapis anciens.
Ouais, non, mais c'est pour ça que je te fais
parler. Les tapis anciens. Au détour d'un voyage à Yerevan, en Arménie, j'ai vu... volant au vent un kilim, je sais pas si tu vois ce que c'est qu'un kilim, c'est ces tapis qui sont tressés, en fait, c'est pas comme les tapis persans, c'est les tapis tressés, et j'ai vu ce truc là comme ça sur le marché.
Je suis en train de voir Aladdin et Jasmine sur un tapis volant.
Alors c'est ça,
mon imaginaire est terrible.
C'est quasiment ça, sauf que je crois que le tapis de Aladdin et Jasmine, c'est un tapis persan, donc c'est avec des gros poids, le truc sur lequel tu marches. Là, c'est tressé, ça veut dire que c'est...
Comme les tapis marocains?
Ces tapis marocains, ça peut ressembler, c'est plat aussi, mais là, c'est encore plus... je sais pas comment dire...
J'ai pas
c'est
de...
C'est comme un... Ouais. J'ai pas d'exemple.
Imaginons
une écharpe qui est... de laine qui est faite par la grand-mère, mais avec des fils beaucoup plus fins.
Okay.
Voilà, c'est une technique en fait
de tissage.
Et c'est des tapis, en fait, on appelle ça des tapis, mais c'est des choses qui ornaient généralement les tentes de bédouins. Si on marchait dessus, c'est vraiment à pieds nus. Voilà. Et aujourd'hui, c'est des tapis qui sont très prisés des collectionneurs.
Et donc, tu as vu ce tapis flotter.
Je vois ce truc flotter au vent, comme ça. On vient de rentrer d'une promenade en voiture dans la capitale Yerevan. Et on arrive à ce truc qui s'appelle vernissage. C'est des marchés ouverts qu'on retrouve d'ailleurs aussi à Moscou. C'est une espèce de coup de cœur absolument dingue. Je me dis, waouh, c'est incroyable, c'est magnifique. Et commence une passion frénétique pour les tapis anciens du 19e siècle.
Alors, comment est-ce que ça s'exprime, une passion frénétique pour les tapis anciens du 19e siècle?
C'est inexplicable. C'est un truc qui te tombe dessus comme une passion, comme un coup de cœur. C'est un truc qui est inexplicable. C'est juste que j'ai trouvé ça beau. C'est quelque chose qui est profond, qui a une histoire, c'est des heures de travail, c'est des mois de travail. C'est un art qui est très brut, en fait, parce que c'est généralement des bédouins, des gens qui vivent dans des tentes, qui ont passé des heures et des heures et des heures à tisser ce truc, qui est mais qui a pu inspirer probablement la peinture du début du XXe siècle. Enfin, quand on voit que Picasso s'est inspiré de statuettes africaines, on voit des comparatifs. Je veux dire, c'est de l'art brut et qui est sur le plan ornemental, qui est magnifique aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs ça a été enfin une grande mode tout au cours du XXe siècle d'avoir des tapis qui ornaient les sols. Et même aujourd'hui, quand on regarde des L déco, on voit des tapis persans, des kilims partout. Enfin voilà, donc c'est un truc qui m'a beaucoup.
Mais comment ça s'est matérialisé dans ta vie, cette passion?
Et j'ai acheté une vingtaine de tapis.
Donc j'avais vraiment besoin de mon job. D'avocat d'affaires.
Exactement. J'ai chiné sur des ventes aux enchères en Allemagne, aux États-Unis, sur le Bon Coin. C'était une quête, tu vois, une espèce de quête au trésor. Tu parlais d'Aladin, c'est une quête au trésor du tapis, sans investir des montants astronomiques. Hein. Je prenais des tapis qui étaient usés, qui avaient perdu leur valeur, mais des tapis de collection. Et donc, c'était vraiment le plaisir de dépenser entre 200 et 500 euros maximum dans un tapis. Et je les ai encore. Et quand je me balade à Drouot aujourd'hui, je m'oblige de ne pas dépenser mon argent pour en acheter, alors que je meurs d'envie de le faire. Mais j'ai plus trop les moyens. Donc.
D'accord. Et quelle autre passion saugrenue ?
La viande. Alors en fait, à cette époque-là, justement, je me disais, bon, maintenant que je suis devenu avocat, quels sont les chemins que j'aurais pu emprunter, enfin non, que je ne pouvais pas emprunter parce que toute mon éducation m'a conditionné à ne pas les envisager, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire qui me plaise? Et donc j'ai pensé à la formation de boucher. Et donc je me suis dit, bon, comment on devient boucher en France? Et donc j'ai regardé un peu, j'ai vu qu'il y avait des BEP, boucherie, tout ça, et je me suis dit, waouh, génial, c'est hyper intéressant. Donc j'ai commencé à me renseigner parce que la boucherie au sens de tout le savoir-faire qu'il y a autour de l'animal, j'ai découvert que la France était le pays qui identifiait le plus grand nombre de pièces dans l'animal, dans un bœuf. Je me dis waouh, c'est fantastique. Et donc en fait c'est tout le savoir-faire qu'il pouvait y avoir derrière qui m'inspirait. J'ai lu un livre, enfin des livres sur la question. Comme pour les tapis, j'ai lu des livres, je me suis renseigné, j'ai contacté des jeunes startups qui vendaient de la viande, je leur ai écrit des lettres enflammées pour leur dire que j'étais intéressé à l'idée de découvrir plus. Et
que t'étais intéressé pour potentiellement les rejoindre?
Bah, pour en savoir plus sur les aider, pour savoir si je pouvais participer, apprendre.
Okay. Et t'as eu des retours?
Oui. Oui, ils m'ont convié, j'ai fait un entretien, on a discuté et ils en ont conclu que je pouvais pas trop leur servir, mais bon, j'avais vécu une espèce de quête de la recherche de moi à travers ces pistes-là. Les tapis comme la viande, en fait, c'est des projets où je me suis posé la question de est-ce que je pourrais en faire un métier. Et les tapis, après avoir discuté avec notamment des vendeurs de tapis, être allé faire un stage de formation à tissage de tapis à Limoges, ils m'ont dit, Fabien, nous on vend des tapis, mais je veux dire, on a des sites internet où on vend des jouets parce qu'on n'en vit pas du tapis. Donc, la viande, je me suis rendu compte que si je voulais faire quelque chose et avoir une approche fondamentale, vraiment aller à la base de ce métier-là, il fallait que j'ai au moins des connexions avec des éleveurs. Et moi, je viens du centre de Paris, une famille de médecins. Enfin, je n'avais rien à voir avec ce milieu-là. Et je me suis rendu compte que les barrières à l'entrée de ce métier étaient trop élevées. Enfin, on se dit qu'il y a beaucoup de barrières à l'entrée, peut-être, quand on est peut-être fils d'agriculteur pour devenir avocat, mais
ça,
quand on est fils de médecin pour se rentrer en contact avec, c'est très difficile. Donc,
ma mère m'avait dit ça quand j'étais petite. J'avais, à un moment, je voulais élever des chevaux. Enfin, ça a duré un peu un long moment. Rétrospectivement, je me dis que j'aurais jamais été capable d'élever des chevaux parce que je déteste me lever tôt le matin, mais indépendamment de ça, ma mère m'avait dit oui, mais ça, c'est un métier. Enfin, il faut avoir des terres. Enfin, je sais plus trop comment est-ce qu'elle me l'avait dit, mais en tout cas, il y avait cette notion de on n'a pas ce qu'il faut dans la famille
pour
en termes de
à commencer ouais, avec le pied à l'étrier, quoi.
Voilà, bref, c'est un espèce de souvenir quand tu parles de ça. Et mes parents sont médecins aussi, tu vois.
Okay.
C'est drôle. je sais pas à quel point c'est un coup à l'entrée, mais bon, voilà, bref, c'est drôle. Donc du coup, tu t'es rendu compte que dans les deux cas, c'était pas. Enfin...
Ça reste un domaine que je trouve très intéressant, mais effectivement, je n'ai pas vu d'opportunité d'entrepreneuriat.
Ouais. Voilà.
Et le troisième découverte, ça a été la fabrication de bière. Donc, et dans la fabrication de bière, donc de la même manière, je m'y suis mis à 200%, j'ai lu plein de livres, j'ai...
Alors attends, parce que j'ai oublié de te demander la question. Donc on sait comment est-ce que t'as... Donc pour les tapis, tu as vu ce kilim volant
Coup de
magnifique.
foudre à Yerevan.
Voilà. Pour la bidoche. T'as un souvenir un peu marquant à un moment, tu t'es dit, mais en fait j'ai envie d'en savoir plus sur ce truc.
Oui, c'est à un moment donné où je me dis, on est dans cette moment où ça y est, je suis avocat. C'est voilà, un jour, je me suis dit, voilà,
Tiens, et la
bon,
viande.
et si on
Je
se
sais pas, mais t'étais
réinventait,
en train
quoi?
de manger une entrecôte, qu'est-ce qui se passait?
Non, j'étais dans mon lit.
Ah oui.
Ça devait être un dimanche où, dans son lit, on rêvasse, on
Ok,
fait le monde un
donc
peu et
c'est parti d'une rêverie.
ça part toujours d'une
Ça
rêverie.
part. Bah non, le kilim, c'est pas parti d'une rêverie, c'est
Non,
parti d'une.
c'est vrai, c'est
C'est
un
pour
vrai
ça
coup
que
de
je te pose
foudre,
la
c'est vrai,
question.
ouais.
Et la bière, rêverie ou.
Pareil, oui, je regardais un livre et je me suis dit, tiens, ça ferait une image, m'inspirait, je me dis que ça ferait une jolie étiquette de bière.
Mais c'est quoi ce livre? Moi, je veux tout savoir.
C'était un livre d'images historiques, et enfin, j'ai vu un dessin, je me suis dit, ça ferait une jolie étiquette de bière, enfin, je sais même plus quel livre c'était.
Ah, c'est dommage que tu t'en souviennes plus.
Ouais.
C'est pas grave.
Et puis, donc, je me suis dit, tiens, comment on fait de la bière? Voilà, c'est cette question, comment on fait de la bière? Et puis là, je suis allé sur YouTube, j'ai vu des Québécois dans leur cuisine fabriquer de la bière. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est curieux, c'est drôle. Et puis, j'ai acheté un livre pour apprendre à brasser de la bière,
Et
et
du
puis
coup,
un
t'as fait de la bière dans
deuxième,
ta cuisine?
et j'ai commencé à faire de la bière dans ma cuisine, comme ces gens-là. Et puis, c'était parti, et dans cette domaine de passion, je me suis dit, bah, il y a matière potentiellement à entreprendre, puisque il n'existe pas grand-chose en France encore autour de la bière artisanale. Je regardais un peu les exemples américains et enfin nord-américains de brasserie, ce qu'elles faisaient, ce qu'elles racontaient comme histoire, et j'ai trouvé ça extrêmement inspirant. Et donc, voilà, c'est de là que
Ça
c'est
t'a donné
parti.
envie. Et en parallèle, dans ta vie d'avocat?
Bah, en fait, j'étais dans ma troisième année, et donc en parallèle, oui, j'avais mes revenus d'avocat m'ont permis de financer mes lectures et
Et
mon
tes
petit
kilims?
matériel et l'équilibre. Et donc ça s'est fait assez rapidement en réalité, c'est-à-dire que ça s'est fait assez rapidement. Ouais, je suis parti de. Enfin, j'ai quitté le cabinet d'avocat peut-être 6 7 mois, 6 mois peut-être après avoir commencé à brasser chez moi.
Ah oui.
Donc j'ai pas quitté enfin l'avocature avec un job sérieux, avec une source de revenus sérieuse
Ouais.
derrière. Enfin, c'était flou, c'était un peu le ouais.
Mais est-ce que, je sais pas, parce que là, t'es avocat, t'as ces passions qui t'animent et à chaque fois, t'es très curieux de te demander, est-ce que tu te projetais pas dans le métier
Lequel?
d'avocat?
Je me suis projeté dans le métier d'avocat peut-être avant de commencer à l'exercer, non pas en stage, hein, mais de l'exercer pleinement. Je me suis vu une fois, je me suis dit, tiens, oui, je me suis imaginé avocat, mais je me suis imaginé avocat plus dans tout ce qu'il y a autour, plus que dans le métier en lui-même. Mais en même temps, c'est compréhensible dans la mesure où la pratique de l'avocature arrive tellement tardivement que tout ce qu'il y a avant, c'est beaucoup d'imagination, beaucoup de fantasmes. Donc, je dirais quand j'ai commencé à l'exercer, non, j'ai eu du mal à me. Enfin, je peux dire vraiment le fond de ma pensée.
Bah oui, on
Oui,
est
on
là
est là
pour
pour
ça,
ça.
ouais.
Ouais. En fait, je me suis dit, bon. Je me débrouille pas trop trop mal, j'ai pas trop mauvais dans ce que je faisais. J'avais des retours qui étaient plutôt positifs, en tout cas des associés avec lesquels je bossais. Et je me suis dit, bon, ok. Si les choses se passent bien, dans X années, je deviens cancel. Dans X années, je deviens associé. Ou alors, j'en ai marre, je crée mon cabinet. Et machin. Et en fait, j'ai vu ma vie tracée en gardant une certaine dose d'humilité, mais je me suis dit, voilà, bon, ok, je serai là, je gagnerai bien ma vie à tel âge, je serai associé. Et je me suis dit, mais en fait, ça m'a angoissé de me dire que mon avenir était aussi prévisible. Je pense que ça m'a pas mal angoissé. Donc il y a ça, et enfin, donc prévisible, c'est-à-dire que dans le côté progression professionnelle. Ça m'a angoissé. C'est pas forcément que lié à l'avocature, c'est lié à peut-être au mode d'organisation, je sais pas, mais voilà. Et je me suis dit, je veux pas aujourd'hui me dire que dans 10 ans, je serai très certainement associé dans le cabinet d'avocat, je ferai la même chose. Voilà, ça non. Et puis deuxièmement, je voyais en fait un peu, j'avais vu et puis je continuais à voir un peu le quotidien des associés, donc des gens qui sont censés nous inspirer. Et j'avais l'impression que le temps qu'ils passaient à travailler et le... Enfin, j'ai pas trouvé d'inspiration humainement parlant dans tous les gens que j'ai côtoyés au pic de leur carrière. Intellectuellement, c'est des gens qui m'ont... Enfin, il y a des gens brillants, enfin, c'est pas de ça dont je parle, c'est vraiment... Je me suis et encore une fois, c'est moi personnellement. J'ai pas trouvé de référent dans son quotidien, dans son épanouissement quotidien. J'ai pas vu ça. J'ai vu des gens épanouis professionnellement. J'ai vu des gens très satisfaits et qui avaient trouvé un équilibre. Mais je me suis pas.
Tu t'es pas projeté.
J'ai pas réussi à trouver la.
Tu t'es pas dit j'aimerais bien.
Le mentor. Ouais. Je pense que la question de mentoring est pas mal, mais j'ai pas trouvé mon mentor. Et parce que je me suis dit, tiens, je veux être comme lui, tu vois. Je me suis pas dit ça, j'ai pas trouvé.
Et alors, je triche un peu parce qu'on a eu une discussion avant même de commencer à enregistrer, mais t'as dit par rapport au chemin de carrière, t'as parlé même des modes d'organisation.
Ouais.
Et avant qu'on commence, c'est pour ça, en général, j'aime pas trop faire parler mes invités avant qu'on commence à enregistrer, parce que sinon, ça, je triche, mais tant pis. T'as dit que c'est un sujet sur lequel tu t'étais vachement penché quand même, l'organisation.
Alors, quand je suis arrivé dans le cabinet dans lequel j'ai exercé, j'ai très vite organisé une course à pied. J'ai envoyé un email à tout le cabinet en disant, voilà, il y a une course à pied, allons-y. Donc j'ai organisé une course à pied avec les volontaires. Et c'est parce que oui, c'était quelque chose qui... J'avais fait une école de commerce, et puis j'ai eu quelques expériences en entreprise, donc... J'aimais bien l'idée que ça bouge un peu, que l'organisation dans laquelle j'étais bouge un peu au-delà même du travail et de l'exécution des tâches. Donc c'est sûr que on va appeler ça le management, du moins la vie du cabinet était un truc qui m'inspirait beaucoup et dont je sentais que j'avais besoin pour être performant moi-même. C'est-à-dire que j'avais besoin que l'environnement dans lequel je travaillais, vivre comme un organe pour que moi j'ai envie d'aller relire des dizaines de pages d'un contrat d'une fusion acquisition qui en soi est un peu enfin c'est barbant quoi donc oui effectivement on parlait d'organisation tu fais référence au livre de Réinventons les organisations de monsieur
Laloux,
c'est ça? Philippe Laloux, quoi. Frédéric Laloux, qui est un livre effectivement un peu qui est une espèce de boulet de canon dans la réflexion sur le management contemporain, mais que j'ai lu après, c'est-à-dire après avoir changé. Oh, ouais,
d'accord,
je l'ai lu après.
Donc en fait, quand t'étais avocat, tu avais cette réflexion un peu managériale, c'était une envie que tu avais, mais t'étais pas allé, c'était pas devenu une quatrième passion en bière.
Non, mais ça a toujours été une préoccupation très importante parce que depuis que je suis tout petit, je me suis dit que, enfin, l'entreprise est quelque chose qui m'inspire énormément, qui m'intéresse énormément dans sa dimension
sociale.
Organisation, ouais. Organisation sociale. C'est un truc qui qui aujourd'hui encore m'intéresse beaucoup. Donc j'avais déjà des réflexions sur comment est-ce qu'on peut optimiser la motivation, comment est-ce qu'on peut optimiser le travail en équipe, comment est-ce qu'on peut optimiser le travail, finalement le rendu. Donc c'était déjà en germe chez moi. Et c'est vrai que assez rapidement, je m'étais dit que les cabinets d'avocats étaient des organisations qui étaient très rigides sur le plan managérial, où même s'il y avait les cabinets les plus jeunes entre guillemets organisaient des séminaires à l'extérieur, pour dynamiser un peu les trucs, c'était quand même très limité quoi. Enfin, et que les gens au final n'étaient pas forcément très dupes d'un événement organisé une fois par an.
Oui, oui. Finalement, ce qui compte, c'est surtout les actions du quotidien plus qu'un bel événement par an.
Mais bon. Complètement.
Et donc, en fait, si je comprends bien, ta reconversion, c'est ce mélange d'absence de projection, d'ennui par rapport à la carrière qui s'annonçait. D'absence de projection, de référent, de mentor, où tu te dis, tiens, cette personne, elle me donne envie de faire ça et de peut-être devenir comme lui ou comme elle, qui a été mis dans le shaker avec ta découverte de la bière et des opportunités entrepreneuriales qu'il pouvait y avoir dedans, avec un coup d'entrée qui était... à un niveau qui te permettait de lâcher la robe pour aller vers la bière. Et on a secoué tout ça et ça a fait une reconversion.
Il y a effectivement de ça. Et c'est-à-dire qu'en germe chez moi, un profil quand même assez entrepreneur, parce que j'avais déjà créé deux entreprises alors que j'étais étudiant. Donc j'avais quand même en moi ce besoin d'imprévisibilité de raison,
tu vois. Mais ce besoin, il aurait pu exister si tu t'étais mis à ton compte, tu vois. C'est une forme d'entrepreneuriat, par exemple.
C'est vrai. Un truc qui m'a... Alors, ça a été le coup de massue qui a vraiment finalisé ma volonté de me reconvertir. C'était que j'ai un de mes cousins qui travaille dans la finance et qui me disait, de tous mes copains, ceux qui continuent à travailler très tard le soir, c'est les avocats. Ils travaillent avec des gens qui, bon, même dans les fonds d'investissement, on travaille beaucoup. Et c'est cette petite phrase qui est venue me dire, mais donc ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que tu vas travailler comme un malade, parce que de toute façon, il n'était pas question que je travaille pas comme un malade dans tout ce que je fais. C'est-à-dire que quand je me lance dans quelque chose, je le fais à fond.
Oui, donc, on comprend.
si je me mets à fond dans l'avocature, je vais travailler comme un malade. Mais est-ce que un jour je vais pouvoir profiter de ce que j'aurais accumulé? Et le sentiment qui a été le mien, c'est de me dire, mais en fait, même si demain je suis associé d'un cabinet d'avocats, que je gagne bien ma vie, très bien, est-ce qu'un jour je pourrais m'asseoir deux secondes et profiter de ce que j'ai construit? Et le sentiment que j'ai eu, c'est que, en fait, je n'y arriverai pas parce que je devrais toujours être là pour relire, enfin, et s'il faut se coucher à minuit, à 4h du matin, ce sera à moi de le faire. Et ça, c'est aussi quelque chose qui m'a pas plu, parce que je me dis, ok, donc je ne construis pas.
On revient à la notion d'organisation et au manque de référents, parce que moi, maintenant, quand je regarde un peu en tout cas, les invités du podcast, j'en vois qui sont pas à ce rythme-là, quoi. D'ailleurs, je pense à Éric Morin, qui est celui qui a mis ton nom sur Twitter quand j'ai dit vous n'avez pas des recommandations d'avocats hommes qui se sont reconvertis. Je manque d'hommes. Et c'est Éric Morin qui m'a dit, il y a Fabien Naoum. Et c'est drôle parce que je pense un peu à lui, tu vois, par exemple. Lui dit, voilà, nous, on travaille bien, mais j'ai une vie, quoi. Ça va. Bon, et cette discussion, je l'ai eue aussi avec Arthur Milrand. J'ai déjeuné avec lui récemment, qui est un invité du podcast du tout début. Mmh. Et il réfléchit. Alors lui, il est jeune associé. Et pareil, il réfléchit, il se dit, mais je sais pas si un jour j'arriverai, c'est une réflexion qu'il fait, à déléguer aussi la production. Enfin, comment est-ce que je peux... Il y a cette réflexion chez les avocats. Je pense qu'on a peu d'exemples. Moi, j'ai l'intime conviction que c'est possible aussi, mais je pense que c'est quelque chose qui est pas assez cultivé et où il y a pas assez d'exemples. Bref. En tout cas, cette notion de construction, je te rejoins, je la comprends.
J'ai pas vu de modèle qui m'ait euh, qui m'éprouvait le contraire. Et même si je voyais des cabinets d'avocats qui avaient une image très, très cool, très... In fine, si on veut que les conclusions que l'on rend, le contrat que l'on rend soit absolument parfait, on doit rester, garder la main dans la production. Ce que je trouve bien, mais...
Oui, mais avec ta bière, c'est la même chose, non?
Oui, c'est la même chose, sauf que ma bière, je peux surveiller la bière à des heures convenables, c'est-à-dire que je peux rentrer chez moi... si je m'organise, je peux rentrer chez moi à 17h, sauf quand je dois aller démarcher des bars, donc là, c'est l'autre problématique, mais... j'ai une maîtrise de mon temps et j'ai l'impression de construire. Le sentiment de construction est beaucoup plus prégnant, il est beaucoup plus fort. Alors, il y a plus forte raison quand je suis dans un domaine qui est, on peut appeler artisanal ou industriel, parce que j'ai posé des cuves en inox, tu vois, des fermenteurs. C'est très visuel, c'est un actif que je consolide, mais il est là. C'est-à-dire que si
Chose de très concret.
Alors, il y a quelque chose de très concret. Et puis, il y a le sentiment de vraiment construire. Je pense que cette idée de construction, d'accumulation dans le temps, et de me dire que si j'ai bien travaillé, je me suis donné à fond pendant 10 ans, je peux avoir une équipe qui pilote la brasserie. Je pourrais faire, je pourrais goûter la bière in fine, mais je pourrais me détacher. Et que mon entreprise soit indépendante de moi. Et je pense que ça, c'est un élément qui est, à mon sens, assez important dans l'entrepreneuriat. C'est ce qui fait aussi la valeur d'une entreprise. C'est la capacité de l'entreprise à vivre sans son fondateur, sans son PDG, là. Qu'elle puisse être autonome, en fait. Et c'est ce qui fait, à mon sens, sa valeur. Un cabinet d'avocat, j'ai l'impression que si tu fondes un cabinet d'avocat, oui, peut-être qu'on peut. Enfin, je me rends pas compte dans quelle mesure il peut vivre sans toi. Tu vois, en quelque sorte. Enfin...
Ah, c'est une grosse réflexion. Moi, je pense que c'est possible, mais qu'il faut construire un cabinet d'avocat. Il faut le construire comme ça, quoi. Il faut le construire en acceptant que, mais comme dans n'importe quelle entreprise, encore une fois, en acceptant que du coup, sa valeur ajoutée, elle est dans cette construction, justement, et pas que dans la production. Enfin, tu vois ce que je veux dire?
Oui, oui.
C'est une réflexion que je mène. Je dis pas que c'est facile, mais oui. De la même manière que je pense que pour aucune entreprise c'est facile. Et pour aucun, tu vois, pour aucun, enfin, tu vas me dire toi ce que t'en penses, mais moi, avec Flore d'Avocat, parce que je réfléchis aussi comme ça, je sais que Flore d'Avocat, c'est à la fois très lié à moi, ne serait-ce que via le podcast, etc. Mais j'ai aussi envie que Flore d'Avocat, ce soit pas que moi, tu vois, dans les formations que je donne, etc. Alors, j'en suis à la micro-pousse, la partie entreprise de Flore d'Avocat, c'est né il y a 6 mois. En revanche, je commence déjà à réfléchir pour organiser Flore d'Avocat d'une manière où je puisse être pas toujours dans la prod, quoi. Parce que sinon, effectivement, tu t'épuises. Enfin, voilà. Mais il doit t'arriver la même. Et la crainte qu'il y a derrière, parce qu'en fait, la difficulté, elle est là. La crainte qu'il y a derrière, c'est est-ce que, enfin, du coup, si je suis pas dans la production, quelle est ma valeur? Est-ce que les gens vont, est-ce que je vais perdre mes clients ou par rapport à, est-ce qu'on va pouvoir me voler mes clients si c'est pas moi qui produis, tu vois? Enfin, peut-être que pour une bière, c'est pas aussi évident.
Alors pour une...
Mais dans la prestation de service, en tout cas, je trouve qu'il y a potentiellement cette difficulté.
Alors pour essayer de réfléchir, enfin essayer de transposer ça dans le domaine qui est le mien aujourd'hui, ça me fait penser typiquement à l'entretien de la relation client, parce que dans le métier d'avocat, l'intuitu personnel, c'est-à-dire que la personnalité de l'avocat et la relation qu'il a avec son client est essentielle. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les clients, alors j'ai l'impression qu'il y a toute une partie de clients qui vont choisir un cabinet d'avocat pour sa réputation, pour le nom, et qu'ensuite ils vont chercher des avocats dans le et qu'en ce sens les cabinets qui ont réussi à se faire une marque, une belle marque, arrivent à comment dirais-je, à donner un peu d'autonomie à cette marque au-delà des avocats. Moi aujourd'hui, effectivement, avec mes clients, j'essaie de sortir un peu de cette relation où c'est que moi qui suis à l'interface. Et il y a des clients qui sont sensibles à ça et des clients qui le sont moins. Ce qui est sûr, c'est qu'à mon niveau, c'est important pour moi qu'il y ait toujours mon âme dans la production, c'est-à-dire qu'il y ait toujours ma patte dans la production.
Oui.
Parce que c'est ce que je vends, c'est ce que je... Et c'est aussi l'histoire que j'ai envie de raconter. C'est-à-dire que je pourrais faire autrement et très bien réussir. Il y a des entreprises de bière qui ont très très bien réussi, qui sont des très grosses boîtes, sans qu'il y ait la patte du fondateur dans la bière. Mais moi, l'histoire que j'ai envie de raconter, c'est celle où, voilà, dans chaque brassin qui sort, il y a ma patte. J'ai contrôlé la bière à l'entrée.
Non, je te rejoins à 200%. Moi, c'est aussi ce que je me dis pour Fleur d'Avocat. C'est-à-dire que si je suis plus dans la production de toutes les formations ou de nanana, je veux quand même que les formations, elles ressemblent à ce que je veux insuffler dans l'enseignement, dans la transmission. Enfin, donc on en revient à la patte et aussi et finalement c'est là que tu es toi, tu vois. Et je pense que ça peut être la même chose pour un cabinet d'avocat, mais à la limite peu importe. Enfin, moi c'est des réflexions qui me passionnent, donc du coup je nous fais parler là-dessus. Mais en vrai on s'éloigne de ton parcours. Et pour en revenir à ton parcours justement. Donc tu voilà, en 6 à 8 mois, tu lâches tout pour te lancer dans la bière. Comment tu te sens à ce moment-là ?
Ça a été un des sentiments les plus grisants de ma vie. Parce que donc j'ai le sentiment de faire un peu le saut de l'ange. Je trouve que l'image m'inspirait beaucoup à ce moment-là parce que je n'avais pas beaucoup de sécurité derrière. J'avais pas de source de revenus certaine, j'avais commencé un peu à vendre ma bière, mais c'était sporadique. Je n'avais pas l'intention d'en vivre. Et j'avais cette incertitude. Et je pense que c'est ce risque, ce saut dans le vide, qui est extrêmement grisant et qui m'a donné un sentiment de liberté absolument incroyable. Bon, c'était une des premières fois que je prenais une décision aussi irrationnelle, en fait. Quelque part, parce que c'est très rationnel sur le plan quand on voit l'évolution et les raisons pour lesquelles j'ai choisi ça, mais dans la logique, je dirais, qui était la mienne jusqu'à maintenant, donc de faire mes études comme il faut, de devenir avocat, c'était un choix complètement irrationnel. Et c'est ce qui a surpris les gens, et je pense que c'est aussi ce qui peut être un peu étonnant aujourd'hui dans notre société, un peu moins parce que de plus en plus de personnes font des choix irrationnels de sortir de carrière pour se lancer dans des trucs absolument... qui ne sont plus dans les mêmes logiques. Mais voilà, en tout cas, ça a été une expérience les plus grisantes, c'est cette prise de risque, ce saut dans le vide. Et rien que pour ça, ça fait la peine. Même si je m'échouais, m'écrasais à l'issue de ça.
Qu'est-ce qu'on t'a dit autour de toi ?
Bon, les gens savaient à l'époque que j'étais déjà un peu curieux. Et quelque part, en fait, comme j'avais un peu fait j'avais fait mon droit, c'est-à-dire que j'avais montré que j'étais pas trop farfelu, c'est-à-dire que je savais quand même assurer mes arrières. Les gens se sont dit, ça nous a fait un peu rire, mais je sais pas trop ce qu'ont dit les gens.
Mais toi, qu'est-ce qu'ils t'ont dit à toi ? Tu te souviens pas ?
Ah bah alors, ça dépend d'où, mais dans ma famille, on m'a dit assez drôle. C'est assez drôle, un peu...
Ouais. Rappelons que les parents sont médecins, donc oui, c'est drôle.
mais bon, j'ai des parents qui sont quand même... Enfin, qui ont une... Même s'ils sont médecins, ils ont quand même une nature un peu... bon, ils savent apprécier la déviance, ce genre de choses. Donc ils se sont dit, c'est curieux, mais ils se sont dit, bon, de toute façon, au pire, tu peux revenir au droit. Et donc, pour eux, cette espèce de sérénité, de savoir que je puisse retrouver un job dans l'avocature digne de ce nom, c'était pour eux rassurant. Et donc au final ça a été plutôt bien accueilli.
Et tes confrères autour de toi, ton associé?
Bah, mon associé, je l'avais un peu prévenu dès le début en lui disant que il y avait des chances que j'entreprenne un jour. Donc il m'a dit que Fabien, tu m'avais prévenu au début.
Tu lui avais prévenu au début, c'est-à-dire quand tu l'as rejoint en collaboration ?
Exactement. On avait échangé. Dès ce moment-là, je dis, moi, il y a de fortes chances que j'entreprenne un jour. Donc il savait que j'avais cette fibre-là. Et c'est peut-être aussi ce qu'il avait plu. Parce que quand on fait les droits des affaires ou du conseil, cette fibre, je pense, affairiste, je ne sais pas qu'on appelle ça, mais commerciale, je serais ce sens, je dirais, des affaires, c'est quelque chose qui est plutôt valorisé. Donc, mais voilà, avec ce risque que je puisse partir. Et effectivement, je pense que je suis parti pas au meilleur moment pour lui, parce que j'entrais dans ma troisième année, on a commencé à être formé, donc bon, c'était...
Mais en tout cas, voilà, c'est bien passé, quoi.
Donc ça s'est... Oui, c'est bien passé. Ça s'est bien passé.
Et ses débuts, après le saut de l'ange, c'est quoi les premières étapes?
Alors, les premières étapes, c'est comment je vais gagner de l'argent. Enfin, comment je vais payer mon loyer. Ça, c'est... Et là, je me suis dit, bon... on crée, hein, c'est un peu comme en Mongolie, c'est-à-dire qu'on on fait... au jour le jour. Et donc j'ai eu l'idée d'ouvrir un petit magasin pour vendre de la bière. Mais vraiment un tout petit commerce, non pas un commerce pour gagner beaucoup d'argent, mais c'est juste pour pouvoir financer ma production naissante. Je commençais à fabriquer de la bière donc chez des confrères qui m'accueillaient. Donc ce magasin me permettait de payer cette production naissante. Et puis accessoirement de me permettre d'avoir un petit revenu.
Donc un magasin de bière.
Un magasin de bière.
Ok. Qui est situé
dans les Batignolles.
Dans les Batignolles.
Qui aujourd'hui n'existe plus, mais voilà, qui m'a permis pendant 4 ans de, en quelque sorte, financer ma formation, financer ma production se développant, et de, bon, me financer moi, ce serait un peu mentir, parce que je récupérais vraiment pas grand-chose de ça, quoi. Donc, voilà comment ça s'est construit. Et puis, ensuite, une fois que j'avais ce projet-là en tête, je l'ai mis en œuvre.
Donc, ça a duré combien de temps, cette période? 4 ans, t'as dit?
Alors, le magasin a existé pendant 4 ans, mais au démarrage, j'avais quand même, dans un business plan, tracé un peu mes objectifs. C'est-à-dire que j'avais prévu à l'origine de monter ma brasserie, d'avoir mon équipement, mon usine, entre guillemets. Donc, c'était un projet que j'avais, je visais à 2020, comme l'année de l'installation de ma brasserie. Et... avant d'arriver jusque-là, j'avais jalonné quelques étapes. Donc je m'étais fixé quand même une espèce de cadre, tu vois, pour avancer. Et puis ensuite, il s'agissait de dérouler les différentes étapes.
Est-ce que ça s'est déroulé dans le sens que tu l'avais prévu?
Non, ça s'est pas déroulé dans le sens que j'avais prévu. Parce qu'effectivement, le magasin donc a été une expérience vraiment très très intéressante. Mais financièrement, j'ai eu du mal en fait avec le magasin à dégager de la capacité d'autofinancement pour embrayer sur un deuxième commerce qui m'aurait permis de grandir comme ça. Donc j'avais vu un peu trop petit. Enfin, je savais que je visais petit, mais bon, voilà, j'ai visé un peu trop petit. Ce qui fait que le magasin vivait lui-même, mais je n'en vivais pas encore. Donc, et puis j'ai rencontré des gens à un moment donné qui m'ont invité, qui m'ont poussé à faire ce qu'on appelle une levée de fonds. Ce que j'avais fait j'avais accompagné des levées de fonds quand j'étais avocat, mais c'est vrai que quand on est dans le cockpit, on a du mal à se l'imaginer. Et donc c'est grâce à cette levée de fonds que j'ai financé plus tôt que prévu mon outil de production. Et cette levée de fonds m'a fait entrer dans une dynamique entrepreneuriale nouvelle, qui est une vraie dynamique entrepreneuriale où on a investi dans...
C'est le moment où tu t'es vraiment senti entrepreneur.
Je me suis senti entrepreneur dès le début. Dès le début, parce que en fait, que l'on installe un petit commerce de 19 mètres carrés ou qu'on installe une brasserie de 800 mètres carrés, les doutes, les déconvenues, enfin l'expérience est vraisemblablement un peu la même. Le stress est le même, c'est juste que voilà. Donc non, entrepreneur, je me suis senti dès le début. C'est juste que cette nouvelle expérience me fait rentrer dans une nouvelle dimension entrepreneuriale avec une, je dirais, une partie de gestion, des problématiques de gestion plus complexes qu'avant, puisque les enjeux sont plus importants. Et...
Donc, grâce à cette levée de fonds, tu as pu créer ta brasserie?
Alors, cette levée de fonds m'a permis de créer la brasserie. C'est une levée de fonds que j'ai fait avec, en crowdfunding, en partie, c'est-à-dire que c'est via Internet notamment. Et aujourd'hui, dans mon actionnariat, nous sommes 65 dans le capital de la brasserie. La moitié sont des clients du magasin. Donc en fait, le magasin a été un vrai laboratoire en fait de rencontres, d'expériences, qui m'a permis de développer mes compétences de brasseur, puisque c'est moi qui brasse aujourd'hui. Je voulais être aux commandes de mes produits, et m'a permis donc, ça a été un vrai tremplin.
Ça t'a permis aussi, je suppose, d'identifier ce qu'aimaient les clients, ce qu'ils recherchaient, alors, comme type de produit, ce qui leur manquait peut-être, non?
Oui, mais c'est pas ça qui a conduit ma réflexion. Alors, ça, c'est, si on parle d'entrepreneuriat, c'est dès le début de mon entrepreneuriat, je me suis dit, bon, si je quitte la profession d'avocat, c'est pour faire les choses que j'ai envie de faire et comme j'ai envie de les faire. C'est-à-dire que je me suis pas dit, qu'est-ce qui va marcher? Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et c'est aujourd'hui, je défends un peu maintenant cette approche de l'entrepreneuriat. Parce que je trouve que ma génération, en tout cas dans nos écoles, on a été bercé à l'idée de si tu veux entreprendre, il faut que tu aies la bonne idée, tu vois. Et ça, je pense que c'est un truc absolument destructeur et idiot pour entreprendre. Entreprendre, c'est pas est-ce que j'ai la bonne idée, à mon sens. Hein. Entreprendre, c'est qu'est-ce que j'aime faire au quotidien. Alors, quel est mon plaisir, dans quoi je m'amuse au quotidien. Parce que l'entrepreneuriat, c'est un truc qui est hyper, enfin qui est très demandeur, qui est pas forcément aussi stressant que l'avocature. J'ai trouvé que le stress de l'entrepreneuriat était très différent du stress de l'avocature, mais je trouve beaucoup plus facile à vivre, de mon point de vue. Mais la question, c'est qu'est-ce que j'aime faire? C'est quoi les plaisirs que j'ai au quotidien? Et c'est ça qui a vraiment dirigé tout mon entreprise. Au point où, en fait, j'ai jamais vu mon entreprise sous l'angle du risque. Je l'ai vu sous l'angle de comment est-ce que je peux faire en sorte que mon plaisir conduise à quelque chose de bon, d'intéressant et qui donne envie aux autres de le consommer.
C'est drôle parce que mon coach me dit tout le temps ça. Parce que j'ai un coach et à chaque fois que je viens avec un problème, je dis mais en fait j'ai pas envie de faire ça, ça je le sens pas et puis j'ai pas envie de faire comme ça. Et à chaque fois il me dit Lia, t'es pas partie. T'as pas arrêté d'être avocate pour monter ta boîte avec toutes les emmerdes que c'est pour faire des trucs que t'as pas envie de faire. Mais donc si t'as pas envie, tu les fais pas. Je suis là. Oui, effectivement, vu comme ça.
Alors, modulo.
Non, mais modulo, bien évidemment, il y a des trucs à faire avancer. Non, mais voilà. Mais sur les. Enfin, tu vois, je sais pas, des personnes avec qui travailler ou des manières de faire une certaine chose. Enfin, voilà. Là, pour le coup, c'est des trucs où il me dit, t'es pas obligé en fait, tu peux faire, comme toi tu veux, comme toi tu vas prendre du plaisir à travailler. Si c'est pour faire un truc et qu'en fait t'en tires pas de plaisir, ça sert à rien, faut pas le faire.
Et surtout, je pense que, on se doit à ça, c'est-à-dire que on a quitté un truc qu'on a construit pendant 8 ans, donc là on est devenu avocat, ça fait 8 ans d'études, 3 ans d'expérience. Il faut que ça en vaille la peine d'arrêter ça. Et donc la peine, c'est que les choses soient motivées vraiment par le plaisir de les faire, que ce soit amusant et encore une fois, encore plus que quand on est entrepreneur, c'est particulièrement demandeur, c'est particulièrement difficile. Donc voilà, le plaisir et faire les choses comme on a envie de les faire, avant de penser à ce que les gens vont vouloir ou ce que les gens vont aimer. Voilà, c'est juste un.
Et donc, toi, c'était quoi ton plaisir et qu'est-ce que tu avais envie de faire avec cette bière, avec cette brasserie?
Alors, il y a... Dans la façon dont j'ai construit mon entreprise, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'était important pour moi d'être l'auteur de mes recettes, c'est-à-dire de maîtriser mon produit. Je me voyais pas construire une entreprise dans laquelle je ne maîtrise pas l'objet de ce que je vends. Il y a des brasseries qui se montent ou qui sont montées par des entrepreneurs qui ne savent pas brasser, mais c'était pas l'histoire que je voulais raconter. J'avais envie de mettre mes mains dans le cambouis, j'avais envie de créer. Et ça a développé beaucoup de réflexions que j'ai autour du travail manuel. J'ai toujours envie de participer à la valorisation du travail manuel, du travail de l'artisan qui utilise ses mains, et que quand on évolue, moi j'ai évolué dans des milieux où, de profession plutôt intellectuelle, où le travail manuel c'était quelque chose qui est un peu dévalorisé parce que c'est, on n'est pas un notable de sa ville quand on fabrique de l'aide, enfin quand on met ses mains dans le cambouis, quoi. Et moi au contraire, je trouvais que c'était extrêmement noble, extrêmement intéressant, et je le crois toujours, En tout cas, voilà, ça fait partie des valeurs que aujourd'hui je défends beaucoup. Donc, parmi les choses qui me motivent, c'est j'ai à cœur de. Alors, la France est un pays qui a perdu sa culture brassicole. Pour faire un petit laïus sur l'histoire de la bière, il y avait près de 3000 brasseries en France au début du XXe siècle. Elles ont toutes disparu après les deux guerres. réquisitionnés. Et au milieu du XXe siècle, il en restait une petite dizaine. Donc ça a vraiment été tout un pan de l'artisanat, de l'industrie française qui a disparu. Il y a eu aussi les rachats par les géants de la bière. Et depuis peut-être 20 ans, ouais, 20 ans, il y a ce phénomène insufflé beaucoup par les États-Unis, qui où on a vu des brasseries renaître. Et donc aujourd'hui en France, on devrait avoir peut-être plus de 1000 brasseries, mais on est encore loin du nombre de brasseries qu'il y avait il y a plus de 100 ans. Donc c'est tout un secteur de l'économie qui se reconstitue, qui a été oublié et qui se reconstitue. Et donc, moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est de se dire, bon, bah, c'est un secteur qui est un bassin d'emploi hyper important, parce que c'est des petites industries qui recrutent énormément, beaucoup plus que des industriels de la bière. Donc, il y a ce pan de création d'emplois que je trouve extrêmement intéressant. Il y a cette valorisation du travail manuel, de la consommation locale, donc avec des produits idéalement qu'on trouve en France. Moi, j'ai à cœur de participer au développement d'un, ce qu'on pourrait appeler un sort de terroir brassicole français. Parce qu'on n'a pas encore vraiment ça aujourd'hui. Il n'y a pas de style de bière français. Ça n'existe pas. Et je trouve qu'on a une telle richesse culinaire et artisanale en France que l'idée, c'est qu'à notre petit niveau, bah, on crée des recettes ou des styles, bah, qui puissent être, une approche un peu singulière et française de la bière dans le monde, de manière à ce qu'on puisse derrière exporter et qu'on constitue ce style de bière français contemporain qui n'existe pas encore.
Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi, un style de bière français contemporain qui n'existe pas encore? Enfin, comment on va vers ça?
Pour moi, on va vers ça. Tout se passe dans la cuisine, c'est-à-dire dans la création. Tout se passe dans la fabrication des recettes, dans la vision artisanale qu'on a de la bière. Pour moi, c'est là que c'est dans la tambouille, je dirais, que se niche la vraie innovation.
Et donc, je crois que je tiens ma punchline, c'est dans la tambouille que se niche la vraie innovation.
Ce que je veux dire, c'est qu'on peut passer énormément de temps à essayer d'imaginer, d'innover, de créer, de trouver le truc qui marche, tu sais, pour revenir à cette question de ah, ça fonctionne, donc il faut que je le fasse. Pour moi, l'innovation, elle est technique, c'est-à-dire elle est dans cette recette-là. Je vais fermenter à telle température plutôt que telle température. Je vais utiliser telle levure plutôt que telle levure. Je vais essayer d'infuser un ingrédient qu'on n'utilise pas habituellement. Nous, par exemple, on a fait une bière au foin. On a fait une bière avec du foin de Camargue qui est utilisé en cuisine. On s'est dit, est-ce qu'on peut l'utiliser dans la bière? Donc, on a fait pas mal d'expériences sur comment infuser le foin pour en extraire voilà. C'est de la technique. Mais, in fine, l'idée, c'est que cette technique aboutisse à des approches un peu singulières de la bière avec un vrai parti prégustatif et des choses un peu innovantes. Voilà, c'est un peu le.
Et donc, t'as commencé à faire ça dans ta cuisine avant même d'avoir ta brasserie?
Et donc, comme quasiment toute une génération, on a commencé dans la cuisine sans formation. J'ai pas fait de formation. J'ai lu des livres. Ça, une des choses très positives de l'avocature, c'est qu'on est habitué à lire. Et j'ai été surpris de la vitesse à laquelle je dévorais les livres de. Ça, c'est un truc. C'est vraiment quelque chose que je m'en suis rendu compte a posteriori. Mais avec l'avocature, j'ai développé une capacité de digérer de l'information qui m'a semblé vraiment importante. Et donc une capacité d'apprendre et d'aller au bout des sujets que j'ai trouvé in fine assez pointu et qui m'a permis de me mettre à fond dans la technique brassicole. Et je pense que ça fait partie des choses sur lesquelles, si un avocat se pose la question de « Ah, mais si j'ai envie d'arrêter, mais est-ce que je vais réussir à faire autre chose ?» Je pense que ça, c'est un truc sur lequel il peut avoir confiance parce qu'on a cette capacité incroyable à apprendre, à digérer de l'information et à aller au bout d'un sujet parce que c'est ce qu'on nous demande de faire dans un dossier face à une problématique qui est souvent nouvelle où on doit aller trouver, sortir les 200 jurisprudences, les filtrer. Voilà. On a une capacité d'apprentissage dans les livres qui est énorme. Et dans la bière, on a eu la chance d'avoir, alors surtout venant des États-Unis, une grosse littérature en fait sur le comment faire, sur les techniques et tout ça, qui permettait de ne pas passer par une formation qui au final, moi je pense que les formations dans ces domaines-là ne servent pas à grand-chose, plus qu'à mettre des œillères, mais voilà.
Et aujourd'hui, aujourd'hui ta brasserie, c'est quoi? Alors déjà, parle-nous de ta brasserie telle qu'elle est aujourd'hui.
Oui. Donc la brasserie, c'est des. Donc on a trouvé un. Enfin, on l'a trouvé. J'ai trouvé un local dans le Val d'Oise, à côté dans la vallée de Montmorency. C'est à 15 minutes de Paris en train, c'est très facile d'accès. Et un local qui est une ancienne halle de fruits, parce que le Val d'Oise est une région historiquement de vergers et de maraîchers. Et donc c'était une ancienne halle de fruits qui fait 800 mètres carrés, donc c'est un bâtiment industriel comme on en rêve quand on est parisien. Et dans laquelle donc j'ai installé des cuves, alors c'est des cuves de 2000 litres, donc c'est des énormes cuves en inox avec des grands fermenteurs. Et c'est une unité de production dans laquelle on brasse et on embouteille.
Mais est-ce que tu as des employés? Est-ce que tu as un associé?
Donc j'ai 65 associés, enfin 64 associés,
qui sont tes actionnaires.
Voilà, des actionnaires de différentes tailles. J'ai voulu, lors de ce crowdfunding, je voulais avoir des associés, des petits associés, je voulais avoir des gros associés. Parce que c'était important pour moi d'avoir une grosse équipe pour m'accompagner. Et ça, je l'ai voulu ainsi parce que, étant avocat, je faisais du conseil en droit des sociétés, je m'étais énormément intéressé à la gouvernance d'entreprise.
Oui.
Et pour moi, l'actionnariat, j'avais envie de voir l'actionnariat non pas comme le truc un peu chiant où c'est des gens qui viennent pour te dire ce que tu dois faire, ce que tu dois pas faire, mais je voulais voir ça comme une vraie équipe qui t'accompagne dans l'entrepreneuriat. Donc je me suis beaucoup inspiré de ce que j'avais appris et j'avais pas peur de ça, parce que je pense que l'actionnariat de manière générale, c'est quelque chose qui est très angoissant pour les entrepreneurs et qui ne sont pas très à l'aise avec le droit. Pour moi, c'était plutôt cool, je savais exactement où j'allais. J'ai fait mon pacte d'associés, mes statuts, c'est moi qui les ai faits. Donc voilà. Donc j'ai une grosse équipe d'associés donc je suis le seul associé opérationnel et j'ai 2 salariés pour l'instant. Il y a de fortes chances que l'année prochaine on garde cette taille d'équipe avant de pouvoir recruter.
Et vous avez combien de produits?
Alors, on a... Donc, historiquement, on a brassé une bière, qui est la bière Batignolles, qu'on brasse depuis 6 ans. Et à l'installation de la brasserie, donc en décembre dernier, enfin depuis, en fait, on a créé plein de recettes. Donc, on a créé 7 recettes différentes. La plupart sont des bières éphémères. On s'est fait plaisir. On voulait se faire plaisir avant de se dire qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fonctionne.
Ouais.
On a commencé par se faire plaisir en faisant des styles... parfois un peu extrêmes, qui sont très appréciés des amateurs de bière, mais un amateur, voilà, sera... Donc on a fait beaucoup de bières qui nous plaisaient nous, donc avec des goûts un peu tranchés, avec des saveurs assez affirmées.
Donc l'exploration, quoi.
Que de l'exploration sur 2019, ça a été que de l'exploration.
Ouais. Depuis quand tu l'as, ta brasserie?
Un an, ça va faire un an
d'essai. D'accord, donc ça a été un an, brasserie, pouf, exploration, quoi. Vraiment, un test plein de choses.
Ouais. Un an de plaisir. C'est vraiment, je me suis fait plaisir en termes de création, parce que l'installation de la brasserie a été un truc assez costaud.
Ouais.
Et donc, voilà, je reviens à l'idée de se faire plaisir dans ce qu'on fait. Là, on prépare des recettes, on essaie de constituer une gamme de base qu'on n'a pas encore vraiment abouti. Mais l'idée, c'est que l'ADN de notre brasserie, ce soit la création très spontanée, comme un chef de cuisine peut créer sa carte du jour, tu vois.
C'est... Oui, avoir des menus de saison.
Des menus de saison, ouais. Exactement.
Et tu n'as même pas dit comment s'appelle ta brasserie. C'est quoi ta marque? Peut-être que c'est parce que tu n'as pas encore de marque.
Si, si.
Ah, d'accord.
Alors, la brasserie s'appelle SPB.
SPB.
C'est H-E-S-P-E-B-A-Y. Ça veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Voilà.
Ok. Et pourquoi?
Alors, l'histoire, c'est que... l'histoire, c'est que... Enfin, on s'appelait historiquement Société Parisienne de Bière. Et en fait, l'idée, c'était de garder un peu l'ADN de notre nom, mais de sortir d'un nom un peu... Bon, qui était un peu pompeux, et sortir du nom parisien. Enfin, je voulais...
Ça fait très années 30, Société Parisienne de
c'était
Bière.
C'était l'idée à l'origine, ouais. D'avoir ce côté un peu rétro. Mais quand il s'agit de fabriquer nous-mêmes dans nos cuves, je voulais qu'on ait quelque chose de plus en phase avec cette idée de création et moins autour d'une localisation parisienne, de ce nom un peu voilà, qui était pas en adéquation vraiment avec l'idée de créateur. Tu vois, donc on a gardé en fait les premières lettres de Société Parisienne de Bière, SPB, et qu'on a gardé donc cette phonétique, et on l'a un peu transformée pour garder un lien avec l'histoire, mais en ayant un nom un peu nouveau, un peu.
Ok. Et donc t'es content? T'es heureux?
Ouais, je suis très heureux. Bon, par ailleurs, enfin, je dans cette entreprise-là, c'est très épanouissant, mais il y a des moments qui sont, enfin, il y a plusieurs fois où je me suis dit, j'en ai marre. Enfin, je veux dire, c'est une aventure humaine. Je peux pas dire que tout au long de cette expérience, c'est ah super. Ce qui est sûr, c'est que à aucun moment je n'ai regretté ce que j'ai fait. Ça, je pense que c'est important de pouvoir le dire parce ouais. que. Ce qui fait que je ne regrette pas, c'est que ça me fait vivre au quotidien. Je stresse au quotidien, mais c'est pas un stress, c'est mon stress. C'est-à-dire, c'est pas le stress de ah j'ai pas rendu ma copie ou ah j'ai fait. Non, c'est beaucoup plus intégré. Donc c'est un stress qui est très dynamisant, c'est très euphorisant. Les plaisirs et les victoires, ce sont mes victoires. Donc je ne regrette absolument pas tout ce que j'ai fait. Je ne regrette pas d'avoir quitté l'avocature, le chemin que j'ai parcouru. Maintenant, effectivement, c'est dur parce que bah c'est l'entreprise, c'est les problématiques de croissance, de machin. La boule au ventre, je l'ai eue, mais je suis jamais allé à l'hôpital parce que j'avais la boule au ventre là-dessus, quoi. Donc, je réponds.
Je pense que ça répond à ma question. Est-ce que tu as une source d'inspiration actuellement, ou d'ailleurs plus globale dans ta vie?
Bon. Il y a des gens qui m'inspirent. Alors.
Ça peut être une personne, ouais.
Oui, il y a
plusieurs, ouais.
Je pense que moi, je peux être inspiré par des gens, mais pour une qualité ou pour un. Tu vois, il y a des gens qui, dans leur démarche de créateur, dans la bière, m'inspirent en tant que créateur. Mais j'ai pas de personne, enfin j'ai jamais vraiment trouvé quelqu'un qui incarnait et je suis content de ne pas avoir trouvé parce que quelque part ça me permet de continuer à essayer de me rapprocher de cet idéal que je me fais de tu vois de ce que doit être mon mentor en fait c'est finalement moi tu vois mais j'ai pas de non j'ai pas comme ça là je, tu vois j'ai pas de personne qui m'inspire j'essaie de m'inspirer de l'idéal que j'aimerais moi-même.
Ok, c'est une belle réponse. Et quelle est ta dernière joie?
Ma dernière joie?
Oui, ta dernière joie.
Ma dernière joie, c'est que après, j'ai passé un an à travailler sur cette piste, mais on a enfin été accepté par la Comédie Française et que donc on trouve notre bière à la Comédie Française. Et c'était un des objectifs que je m'étais fixé au tout début de l'aventure, je me suis dit, le jour où on rentre à la Comédie Française, j'aurai l'impression d'avoir réussi ce que
Mais
je voulais faire.
Pourquoi c'était important pour toi?
Parce que c'est un lieu magique, c'est un lieu où j'ai le plaisir d'aller, que c'est une façon de me dire que bon, bah, je sais pas, symboliquement, c'est, puis, je suis parisien de naissance, c'est des lieux qui sont mythiques. Et puis, il y a de fortes chances que si ça se passe bien à la Comédie Française, on entre aussi aux opéras, oui. L'opéra Garnier, l'opéra de Bastille. Et je suis un fanatique d'opéra, enfin, c'est des choses qui résonnent particulièrement en moi, donc voilà. Ma joie, c'était ça, c'est qu'on soit accepté à la Comédie Française, ça a été génial. Quoi.
Félicitations.
Merci.
Qu'est-ce que tu as fait de ta robe?
Je sais pas où elle est. je sais pas où elle est, j'ai voulu la garder comme un vestige parce qu'il y avait mon nom dessus. J'ai pas tellement investi émotionnellement ma robe. Tu vois,
Bah oui, tu l'as perdue.
Eh bien, je l'ai perdue.
Manifestement.
j'ai pas plus investi ça. Je me suis pas dit, ah la robe, machin, c'est symbole de.
Formidable. J'allais dire, si les auditeurs veulent goûter tes bières, où est-ce qu'ils peuvent aller?
Alors, on travaille depuis 4 ans avec Monoprix.
Ouais.
Donc, on retrouve la bière Batignolles en grand format dans le rayon produits locaux de tous les Monoprix d'Île-de-France.
Okay.
Quand ils ont bien réussi à faire l'approvisionnement. faut pas hésiter à la demander, ça aide à faire le réassort.
Ok, super. Merci beaucoup Fabien.
Merci de m'avoir reçu.